demain soit un jour férié. Pour certains, hein, on ne sait pas s'il y a quelques-uns qui travaillent demain. Mais en tout cas, c'est quelque chose de tellement fondamental pour donc une église comme la nôtre. La Pentecôte est une fête donc évidemment chrétienne, célébrée 50 jours après la Pâque. Donc 50 jours après la Pâque, il y a donc la fête de Pentecôte. On sait que évidemment la Pâque fait référence donc à la résurrection de Christ. On a également le mois de mai, hein, évidemment c'est comme ça en France, toujours des jours fériés, et c'est vraiment appréciable. Et donc le jeudi de l'Ascension, alors pour nous c'est pas trop férié, pour certains, hein, on est allé faire une randonnée, donc c'était quand même assez sportif, mais tout ça pour dire que l'Ascension célèbre la montée de Jésus au ciel, hein, donc un moment tellement particulier après être resté 40 jours après sa résurrection ici-bas. Et la parole, j'aime beaucoup les petites subtilités, les petits détails de la parole de Dieu qui nous disent que pendant ce temps, si il avait fallu mais tout mettre par écrit de tout ce que Jésus a continué de faire, ben, toutes les bibliothèques de ce monde ne pourraient pas contenir tous les bienfaits de notre Seigneur. Alléluia. Et donc, après cette ascension, ben, en fait, il y a eu ce moment tellement important pour l'Église, c'est la venue du Saint-Esprit. Et c'est ce que représente la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit, et c'est un événement majeur du christianisme. Et on va voir ensemble, donc, quand cela est arrivé. Actes chapitre 2, verset 1er. Actes 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? » Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Alors ici, la question elle est posée. On sait que c'est à ce moment-là l'effusion du Saint-Esprit, et cela répond finalement à ce que Jésus a toujours promis, hein, c'est qu'il enverrait son Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifestait et à des moments particuliers saisissait un homme pour une action particulière. Mais le Seigneur Jésus va dire, il va y avoir une ère nouvelle. C'est l'ère de l'effusion du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va se manifester et il va venir habiter en chacun d'entre vous. Quand Jésus a fait cette déclaration, c'est sûr et certain, on peut imaginer les disciples qui étaient là se poser des questions. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils ne savaient pas comment cela allait arriver. Et puis Jésus, donc, lors de son ascension, il va remonter au ciel et il va dire ces paroles de Actes 1, 8, « Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Donc à Jérusalem, la Galilée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était la promesse. Et puis, il va y avoir l'accomplissement de la promesse. Des fois, on dit, acte 1, il y a la promesse du Saint-Esprit. Acte 2, l'accomplissement. Et on pense que ça s'est fait assez rapidement. Il y a quand même eu un laps de temps où l'Église, donc qui était là, les personnes qui étaient réunies, en fait, on passait quand même un certain temps pour chercher la face de Dieu afin de pouvoir être baptisé dans le Saint-Esprit. Et donc, on se retrouve là, dans au verset premier, il dit « Le jour de la Pentecôte, Donc, et cette Pentecôte, elle avait trois objectifs par rapport à l'Ancien Testament. Donc, c'est une fête de l'Ancien Testament. Elle avait trois objectifs au temps de Jésus. La commémoration et l'octroiement de la loi de Moïse. Hein, vous vous rappelez quand Moïse va aller sur cette montagne. Et entre parenthèses, on se dit, mais quand même, il a vécu quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. On était sur cette montagne, il parle à Dieu. On voit que même la montagne, il se passait des phénomènes surnaturels. Et le peuple voyait ça, il était quand même un peu effrayé. Il ne fallait pas toucher, surtout pas toucher la montagne. Ce qui nous montre la sainteté de Dieu. Dieu est saint, on ne peut pas s'approcher de Dieu comme on le désire. Et nous avons ce privilège de nous approcher de Dieu parce que nous sommes revêtus du sang. On l'a chanté tout à l'heure, hein. Je suis fort donc par le sang de Jésus-Christ, parce qu'en fait, le sang de Jésus-Christ, il couvre une multitude de péchés. Alléluia. Et on bénit le Seigneur. Donc, il commémorait donc l'octroi de la loi, les actions de grâce donc à Dieu pour la moisson. Ils venaient de terminer la moisson et ils étaient dans une période de réjouissance et ils étaient tellement contents d'avoir pu donc ramasser cette moisson, hein, ça nous fait penser un peu à la période des vendanges, hein, pour ceux qui à un moment donné, ont vendangé. Et il y avait toujours, je me souviens, à une certaine époque, hein, on vient d'un pays, d'une région où il y a beaucoup de vignes, et quand on vendangeait, à la fin des vendanges, c'était toujours un moment de joie, un moment de fête. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, c'est peut-être pour ça, quand ils ont commencé à parler en langue à ce moment-là, certains ont dit ils sont pleins de vin doux. Parce que c'était à ce moment-là, donc à cette Pentecôte, il y a des temps de réjouissance, et puis bon, voilà, on sait comment ça se passe, les temps de réjouissance et les fêtes. Donc ça s'égaye avec certains produits de la vigne. Et là, ils étaient donc en train de fêter cela. Et puis, c'était également à ce moment-là, ils étaient en train de fêter l'offrande des prémices. Et je trouve que c'est un beau symbole. C'est l'offrande des prémices. C'est d'abord, je veux honorer le Seigneur. L'offrande, elle doit d'abord revenir au Seigneur. Et quand on met en priorité le Seigneur, vous savez, le Seigneur n'est redevable jamais de personne, jamais, jamais, jamais. Il va continuer de nous bénir. Il ne peut pas nous laisser comme ça, hein, si on a décidé à un moment donné de d'abord l'honorer, lui. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ce que je remarque également dans ce premier verset, c'est que c'était le jour de la Pentecôte, donc c'était un moment figé dans le temps, on peut situer la période. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et moi je crois que si la Bible spécifie, si ce passage nous dit qu'ils étaient ensemble dans le même lieu, ça peut sous-entendre qu'on peut être ensemble, on peut être ensemble, mais pas dans l'unité. On peut être dans un même lieu, mais pas être unis. L'unité, c'est un vrai défi. Et aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'il y a ce processus un peu d'ego, un peu où on peut se suffire chacun à soi-même. Aujourd'hui, on peut vivre une vie pseudo-vie chrétienne, un peu éloignée de l'Église. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Certaines personnes vont dire, mais on n'a pas besoin de l'Église. Il faudra bien relire la Bible parce que c'est comme ça que le Seigneur l'a prévu. Le Seigneur a prévu qu'on puisse s'aiguiser les uns et les autres. Ça sert à ça, l'Église. Aiguiser quoi, nos caractères? Et rendez-vous compte, si au milieu de nous, on est un certain nombre, si on avait tous le même caractère, si on pensait tous de la même manière, ça serait triste à mourir. Ce qui fait la joie et la beauté de l'Église, c'est qu'on est différents. Puis à un moment donné, ça affine nos caractères. Hier, on a retrouvé également un couple où on s'était perdu de vue. On a fait le calcul depuis 9 ans. Et on se souvenait, de certaines périodes, on était issus de la même Église. Ils ont quand même été interpellés à un moment donné de notre comportement avec Henriette, parce qu'eux, ils nous ont connus, je vais le dire comme ça, un peu brut de décoffrage. On était au début, puis le Seigneur a commencé, vous savez, avec le marteau et le buret, il a commencé à enlever ce qui n'était pas à sa gloire. Donc, et eux, ce couple-là, ils nous ont connus, et puis ils ont vu quand même le changement. En fait, c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu et l'Église, elle sert à s'affiner. Si on dit, ben, j'ai été déçu de l'Église, je ne veux plus y retourner. Est-ce qu'on fait ça à tous les niveaux? Ce n'est pas sûr. Hein. Des fois, on peut être déçu au travail. Est-ce que pour autant, on quitte le travail et puis bon, plein d'autres choses. En tout cas, ici, ils étaient ensemble dans le même lieu. Et on prie, et je prie de tout notre cœur, que plus que jamais, nous devons veiller, c'est qu'au milieu de nous, il y ait cette unité. Pas l'unité d'un homme, d'une femme, des frères et sœurs, l'unité de l'esprit. Être ensemble dans un même lieu, avec un même objectif. Et on veut glorifier le Seigneur parce qu'il le fait. Ils étaient tous ensemble. Cette phrase donc, implique l'unité de lieu et l'unité de pensée. C'est un vrai miracle, parce qu'ils étaient aussi différents que nous. Le Seigneur les réunit dans un même lieu. Et puis au verset 2, j'aime beaucoup quand il dit, et tout à coup, oh, que vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je prie, Seigneur, qu'il y ait des tout à coup du ciel. Que tout à coup, tu viennes nous secouer un peu, afin de pouvoir enlever cette poussière qui s'accumule. En fait, ça c'est on va dire, la normalité. Hein. Chaque être humain, on est tous comme ça. On s'habitue à plein de choses. J'ai fait une prière au début de ma conversion. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, que je ne perde jamais de vue combien tu as été bon, et renouvelle à moi, si un jour j'aurais tendance peut-être à m'endormir. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens me réveiller. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible. Quelqu'un qui accumule de la poussière, on sait plein de choses, on écoute plein de prédications, mais dans la pratique, il y a comme un décalage. Alors que le Seigneur nous aide à ce qu'il y ait des tout à coup. Tout à coup veut dire soudainement, à un moment donné. Quand le Seigneur a décidé d'agir, alors il vint du ciel. Moi, j'aimerais dire que ça ne peut pas venir, la bénédiction ne peut pas venir d'ailleurs. La bénédiction viendra toujours d'en haut, parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Il aime nous bénir. D'ailleurs, si vous respirez ce matin, c'est parce que le Seigneur vous bénit. Et je crois qu'on doit le remercier. Seigneur, merci parce que tu me donnes la vie. Tu me donnes cette respiration. Tu me donnes beaucoup de choses. Le Seigneur nous bénit. Alléluia. Donc il vient du ciel. Quoi. Il y avait un bruit. Et ici, on le voit au travers de ce verset, c'est que l'accent, il est mis sur ce bruit. Je pense que dans les milieux orientaux, on est tous d'accord pour dire qu'ils étaient habitués au bruit. Mais là, c'était un bruit qui était différent, en fait. Et comme ils venaient du ciel, ils n'ont pas reconnu instinctivement ce bruit. Et ce bruit, il va venir, et c'était comme un vent impétueux, c'est-à-dire un souffle violent. Alors pour ceux qui aiment la tranquillité, dans cette réunion, je ne sais pas si on aurait eu notre place. Hein. C'est ceux qui veulent être tranquilles, Seigneur, ne nous bouscule pas trop, voilà, aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme ça. Mais ici, un vent impétueux, un souffle violent. Mais j'aimerais dire que c'était un souffle de vie, un souffle qui amenait la vie d'en haut. Et c'est ce qui était en train de se passer. Et ça, c'était tellement extraordinaire. Et vous savez ce qui va se passer? Et ce souffle, il va remplir toute la maison. Et encore une fois, on découvre que Dieu nous donne avec plénitude. Il aurait pu, hein, je donne cette image, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Un peu comme un séchoir, un sèche-cheveux, à un moment donné, juste un petit vent dans la pièce, ou comme un petit ventilateur. Mais là, il est dit qu'en fait, toute la maison, la plénitude de Dieu, quand Dieu nous donne quelque chose, il nous donne toujours avec plénitude. Pourquoi ? Pour que les autres qui sont dans notre contact puissent en être également impactés. Dieu est un Dieu de grâce. Et de plénitude, alléluia, et d'abondance, amen. On voit qu'au verset 3, il va se passer un miracle, des langues semblables à des langues de feu. Alors, remarquez bien, hein, c'était très important, hein, chaque mot. C'était pas des langues de feu, semblables à des langues de feu. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'Ancien Testament, le feu symbolisait et symbolise toujours la présence de Dieu. On le découvre. Hein. Et ce qui va se passer, donc, des langues semblables à des langues de feu, et leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous l'avez la scène, là ? Les langues qui viennent, et un, et l'autre. Et ça me fait penser, un jour, on va aller plus loin, hein, avec voilà, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Voilà. Alors, cette année, ça n'a pas pu se faire, pour des raisons techniques, mais chaque troisième semaine de janvier, les pasteurs de tout le sud de la France se réunissent pour jeûner et pour prier. Et donc là, on se trouvait à l'église de Nîmes, dans le Gard. Et le soir, donc nous, on avait eu notre journée donc, de jeûne et prière. Et le soir, il y avait la réunion de l'église, la réunion de prière de l'église. Et le responsable, il nous disait, voilà, est-ce qu'il y a quelques pasteurs qui veulent rester? Parce que ce soir, il va y avoir un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Et si certains peuvent rester pour pouvoir prier pour les gens. Et donc, moi, j'étais resté. Et on a vécu quelque chose d'extraordinaire, je n'ai jamais vécu, et j'espère revivre. C'est qu'à un moment donné, donc, pasteur qui était là, donc, il a enseigné sur le baptême du Saint-Esprit, et puis il a dit, à un moment donné, ben, on va mettre en pratique. Et donc, ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, venez sur le devant. Je vous promets, quand j'avançais vers les gens, on n'avait pas le temps de poser les mains sur les personnes. Boum, ils étaient remplis, inondés du Saint-Esprit, et ça débordait. Alléluia, ça c'est extraordinaire. Et puis, une fois, et puis deux fois, et puis trois fois, on était plusieurs. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'est un peu à notre échelle, hein, ce qui s'est passé ici. Dans Actes chapitre 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis, vous le remarquerez dans ce passage, j'ai répété plusieurs fois. Être plein, c'est ça, hein. Alors, ça semble tellement simple, mais être plein du Saint-Esprit. Et vous savez quoi, quand on est plein du Saint-Esprit, ça se voit. On n'a pas besoin d'afficher des étiquettes aujourd'hui. Certains sont devenus les spécialistes en mettant des étiquettes. Je suis apôtre de ceci. Je suis évangéliste de cela. Regardez mon ministère. En fait, moi, je crois de tout mon cœur. Et c'est ce que nous montre la parole. On n'a pas besoin de s'afficher. Quand on a reçu quelque chose de la part du Seigneur, ça va pouvoir se voir. Et c'est les autres, c'est ceux qui nous voient. Ils disent, ben, assurément. Ben, c'est sûr. Voilà, et, le Seigneur est avec lui. Il a fait ceci, il a fait cela. Puis le Seigneur a agi. Et aujourd'hui, il faut le dire. Hein, parce qu'aujourd'hui, certains s'auto-proclament. Et on le voit partout, hein. Et ça, il faut le dénoncer, parce que la parole de Dieu nous demande également de préserver la doctrine. Et pour préserver la doctrine, il faut dénoncer les choses fausses. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul, quand il visitait les églises, ou quand il écrivait des lettres aux églises, souvent, hein, voilà, essayez de lire les épîtres en pensant à cela. Souvent, il rectifiait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des nouvelles doctrines qui florissaient, qui étaient là. Et puis lui, il mettait encore voilà, les choses bien centrées. Il disait, non, ce n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, ces personnes-là, elles ont tendance à disparaître. Hein. C'est comme si on gobait tout. On parle de Dieu, c'est parce qu'on parle de Dieu, et on pense que tout est bon. Soyons vigilants. Hein. C'est comme ça que l'ennemi procède, afin de tromper le peuple. Nous devons être plus que vigilants. Donc remplir le Saint-Esprit, c'est la personne divine. Souvent, on a réduit la personne du Saint-Esprit à une puissance par rapport à Actes chapitre 1, verset 8. Mais évidemment hein, qu'il y a cette puissance. D'ailleurs, vous recevrez une puissance. C'est le mot, on en parlait hier avec les ados, c'est le mot dynamis, d'où est sorti en français dynamite. Donc le Saint-Esprit est là pour dynamiter notre incrédulité, dynamiter certaines choses où on a un peu de mal. Et le Saint-Esprit agit toujours avec puissance. Alléluia. Donc c'est une personne divine et qui va descendre sur terre et demeurer avec les disciples et sur les disciples. Et aussitôt, la puissance va se manifester sur eux. On va voir le changement qui va se passer. Alors, le signe initial, on va le voir également un peu plus loin, le signe initial, ils commencèrent à parler dans d'autres langues. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir le faire, hein, même au milieu de nous, hein, alors de façon raisonnable, parce que l'apôtre Paul, il va rectifier à un moment donné. Hein, et dans une certaine église, ça débordait tellement, tout le monde parlait en langue, on ne s'entendait plus, et donc forcément, il va remettre de l'ordre, il dit, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. Vous voulez prier en langue, priez chez vous. Il dit, mais d'ailleurs, moi, je prie plus que vous. Il dit, mais quand on est ensemble, on se raisonne. Or, ce n'est pas interdit de parler en langue, mais on doit pouvoir le faire, évidemment, mais de façon raisonnable quand on est entre nous, à part quand le Seigneur veut parler et donne un don de langue à quelqu'un, là, la personne va pouvoir s'exprimer. Alors, la question, on peut se poser la question, alors, étant donné qu'il y avait quand même des langues, ils se mirent à parler en d'autres langues, c'est au pluriel. La question que l'on peut se poser, combien de langues ? Alors, la Bible ne le dit pas, alors on ne va pas aller au-delà de la Bible, surtout pas. Alors c'était, en tout cas, une chose certaine, c'était une langue spirituelle, une langue du ciel. Et c'était tellement bon. Il y a même, à un moment donné, l'apôtre Paul qui va dire, mais vous savez quoi ? Quand vous êtes à la maison, et quand les mots vous manquent, priez en langue. Parce que quand on prie en langue, on dit des bénédictions, on apporte la louange dans une autre langue à notre Seigneur, alléluia. Et ça édifie notre cœur. Ça édifie notre personne et ça nous rapproche du Seigneur. Alors c'est surnaturel, hein. Si on attaque le parler en langue avec un raisonnement humain et terrestre, on va vite être dépassé. Mais dans la simplicité du cœur, on peut vivre ces choses-là, alléluia. Il y a la suite du verset qui dit, hein, « Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer dans les langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que les gens autour comprenaient. » On l'a lu ensemble. Hein. En fait, ils parlaient en langue, eux, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, mais les gens autour disaient, mais c'est des Galiléens, hein, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils parlaient des merveilles de Dieu. Qu'au milieu de nous, on puisse raconter, on puisse dire les merveilles de notre Seigneur. Alléluia, à lui seul soit toute la gloire. Amen. Et on voit donc qu'il y a donc une personnalité du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a une personnalité qui lui est propre, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est une personne. Et comme il est une personne, alors le Saint-Esprit agit comme une personne avec quelques-unes des actions qui lui sont attribuées et qui ne peuvent être le fait d'une puissance ou autre chose. C'est une personne qui s'exprime. Regardez, prochaine diapo, Yacouba, s'il te plaît. Regardez, quelques exemples, diapo numéro 2. Voilà, ça arrive. Regardez, la personnalité du Saint-Esprit, il demeure, il enseigne, il rappelle, il rend témoignage, il convainc de péché, il conduit dans la vérité, il entend, il dit, il parle, il annonce, il inspire l'Écriture et parle par elle. Il parle dans acte 8, à Philippe, il appelle au ministère, il intercède, puis on met trois points, et encore, dans le Saint-Esprit, véritablement, c'est une personne. Et des fois, on a un peu de mal. Hein. On entend souvent, Seigneur, Dieu, je te loue. Jésus, je te loue. Et le Saint-Esprit, il a un peu plus de difficultés, vous l'avez remarqué, on est tous comme ça. Et pourtant, c'est une personne, parce qu'il possède les attributs essentiels de la personnalité, donc avec une volonté. Il a une volonté. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, il est dit que l'Esprit donne et il se sert et de chacun comme il veut. Donc, une volonté. Il y a la pensée du Saint-Esprit. Parce que Dieu connaît, évidemment, quelle est la pensée de l'Esprit. Vous vous rappelez Romains 8, 27. Donc, la pensée de l'Esprit. Et puis, il est doté également, il est doué de connaissances. L'Esprit connaît et sonde, va en profondeur, il connaît les choses de Dieu pour pouvoir nous les faire découvrir. Et ça, c'est merveilleux. Et des fois, nous-mêmes, on met des barrières. Voilà, dans les choses que je maîtrise, que je connais, mais je ne veux pas aller au-delà, peut-être quelque chose qui bloque. Seigneur, dans cette simplicité, en disant, Seigneur, tu veux nous remplir, nous baptiser du Saint-Esprit. Alors, pourquoi s'en priver ? Parce que tout ce que Dieu donne, c'est bon. Tout ce que Dieu donne, c'est pour qu'on aille plus loin, qu'on soit plus fort, qu'il y ait davantage de puissance à chacun d'entre nous, c'est ça. Hein. Donc, on voit que ce Saint-Esprit a été donné et que finalement, le Saint-Esprit est une personne. Et il y a les symboles du Saint-Esprit. On en connaît quelques-uns. Hein. Le Saint-Esprit se décline dans la parole avec des symboles. Le premier, la colombe. la colombe. C'est Luc chapitre 3 verset 16 où il dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Du Saint-Esprit et du feu. Alors ici, pour resituer le contexte, c'est Jean-Baptiste qui parle. Jésus est au début de son ministère. Il commence son ministère et il a une révélation directe de la part du Seigneur. Et il dit, mais le Saint-Esprit va venir, il va descendre sous une forme corporelle, il va venir comme une colombe. Et vous vous souvenez qu'à un moment donné, dans ce contexte-là, la voix du Père va se faire entendre. Le Fils est là, c'est lors de son baptême, hein. Le Fils est là, et puis comme une approbation, le Saint-Esprit vient se poser pour montrer qu'il y a une approbation divine, et là on voit la Trinité au même endroit. Vous ne trouverez jamais le mot Trinité dans la Bible. Jamais. Mais ici, on voit, entre autres, le concept de la Trinité ici. Alors pourquoi l'image de la colombe pour nous rappeler que, comme la colombe, le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance irrésistible, ça on l'a vu, mais il se caractérise aussi par la douceur, la tendresse et la pureté. Voilà pourquoi cette image. Ensuite, quand on parle de symbole, on parle du Saint-Esprit. Souvent, c'est symbolisé par le souffle ou le vent. Et ce symbole vient directement de la signification du mot « esprit ». L'esprit, en hébreu, c'est le « roua », qui désigne à la fois le souffle, c'est-à-dire l'haleine, et le vent, c'est-à-dire l'air en mouvement, pas de statique. Et en grec, le mot « esprit », c'est le mot « pneuma ». Et là, ça nous ouvre un peu plus l'esprit, pneumatique, de l'air. Donc « pneuma », qui désigne aussi à la fois le vent et la respiration. Le vent, le souffle symbolise l'esprit et souligne l'action invisible et imprévisible du Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure, voilà, j'ai marqué, j'appuie un peu dessus, les tout à coup. C'est à un moment donné, il se passe quelque chose de divin et le Saint-Esprit, il se manifeste. Notamment, un autre symbole du Saint-Esprit, c'est l'eau. On sait que quand il y a absence d'eau, la vie, toute vie est impossible quand il y a un manque d'eau. Alors c'est cette image en fait, c'est l'abondance. Ce symbole est facile à comprendre comme l'eau vive, c'est la présence du Saint-Esprit. Vous vous souvenez quand Jésus va faire cette déclaration? Il faut la faire. Dernier jour de la fête, précision. Dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout va s'écrier que celui qui a soif vienne à moi. Et donc, s'il le fait, des sources d'eau vive, la vie, la ferveur, le bouillonnement couleront de son sein. Ça, c'est la promesse que le Seigneur nous fait. Alors, la question, elle est celle-ci. Est-ce qu'on bouillonne? Pas de nous-mêmes, parce que si c'est de nous-mêmes, ça va se voir, ne vous inquiétez pas. Ça se voit. Mais du Saint-Esprit rempli, ce bouillonnement qui nous vient d'en haut. On sait que l'eau, elle rafraîchit et elle désaltère. Quand il fait chaud, quand on a fait un effort, un verre d'eau fraîche, il n'y a pas mieux. Donc ça rafraîchit, ça désaltère. L'eau fait apparaître, réapparaître la vie où régnait la désolation et la mort. Elle apporte la plénitude et l'abondance, encore une fois, et la déverse tout autour en flot de bénédiction. Alléluia. Un autre symbole du Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu, on l'a dit tout à l'heure, donc suivant l'usage des Écritures, fait allusion donc à l'action purificatrice. Vous avez souvent entendu, à un moment donné, il y a certains chants où on met le feu pour purifier le sol. C'est cette image également. Le Seigneur est venu pour purifier nos cœurs, Alléluia, pour consumer toutes les impuretés. Et plusieurs fois, Jean-Baptiste, parlant de Jésus, hein, il va le dire, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ce feu purificateur de la parole. Ensuite, un autre symbole, c'est le sceau. Alors, pas le sceau, c'est le sceau. Voilà, le sceau, chez les Juifs, le sceau, il marquait la fin d'une transaction. J'aime beaucoup. Hein. La fin d'une transaction, c'est-à-dire à un moment donné, on met le sceau, il y a la signature, et lorsque l'accord a été réalisé et le prix avait été payé, on a posé le sceau sur le contrat pour le rendre définitif. C'est merveilleux. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas le salut, hein, c'est pas ça. Hein. Mais en tout cas, du côté du Seigneur, le sceau est là. Et lorsque nous croyons et que nous sommes scellés dans le Saint-Esprit, hein, nous sommes scellés du Saint-Esprit, ainsi, sur nous, il y a l'empreinte divine. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Alors, il ne faut pas que ça monte à la tête, en toute humilité. Nous sommes une nation sainte, une race élue. C'est l'apôtre Pierre qui va avoir cette révélation et qui va le dire. Et souvent, on entend, on se dévalorise. Mais le Seigneur, lui, il est venu pour nous valoriser, justement. Il dit, vous m'avez accepté, mais désormais, vous faites partie de ma famille, vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants. Il y a cette intimité et donc, il y a l'empreinte divine en chacun d'entre nous. Et à un moment donné, ça va pouvoir, encore une fois, se voir. C'est la marque de la propriété de Dieu. Nous appartenons à notre Seigneur. L'apôtre Paul, il va le dire d'une autre manière. Il dit, maintenant, moi, je suis esclave de Dieu. Waouh. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, tu peux dire, ben en fait, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis esclave de Dieu. Le symbole est fort, hein, surtout à cette époque-là. Hein. C'est-à-dire cette appartenance, j'appartiens au Seigneur, il y a cette marque. Et puis le dernier symbole, c'est, donc on a vu ici le sceau, il y a le gage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est lorsque, lors d'une transaction, il était d'usage de verser des arts, hein, une acompte. Et ces deux images, donc le gage ou les arts, nous font comprendre que le don actuel du Saint-Esprit est la garantie solennelle. Et en quelque sorte, le premier acompte, c'est un acompte du salut final. Et on veut remercier déjà pour les arts. Pour le gage que le Seigneur nous donne. Et c'est une marque dans nos vies et on veut le remercier pour tout cela. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Mais quel est le but? Des fois, vous savez, quand on lit la parole de Dieu ou quand on réfléchit sur les choses de Dieu, posons-nous des questions simples. Ça va éveiller un peu la curiosité, notre recherche, puis on va voir dans la parole de Dieu, comme nous avons le Saint-Esprit, ben il va nous éclairer, et donc là, on va réaliser certaines choses. Le but du baptême du Saint-Esprit, c'est que Jésus avait promis à ses disciples donc, le baptême du Saint-Esprit en ces termes. Hein, Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus, donc, évidemment, qui parle. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, donc promesse en provenance de Dieu. Mais vous, il y a une responsabilité, restez dans la ville, ne partez pas ailleurs. Restez là, parce qu'il va y avoir, à un moment donné, l'effusion du Saint-Esprit. Et on s'aperçoit que, en fait, ici, le Saint-Esprit, c'est un revêtement. Afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Les apôtres n'auraient pas pu accomplir. Pourquoi donc le but du baptême du Saint-Esprit? Parce que les apôtres n'auraient pas pu accomplir efficacement leur ministère sans le baptême du Saint-Esprit. On remarque dans la parole, les mêmes hommes sans le baptême du Saint-Esprit, des peureux, ils craignaient pour leur vie. Des hommes qui manquaient de courage. La peur était là. Vous vous rappelez, hein, quand Jésus, on vient le chercher dans le jardin, ils partent, ils le laissent seul. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a dû, ils ont dû se remettre en question. Mais en fait, ça nous ressemble. Sans le Saint-Esprit, on n'est capable de rien du tout. Les mêmes hommes baptisés du Saint-Esprit, donc remplis du Saint-Esprit, donc ce qu'ils faisaient, le Saint-Esprit leur faisait surmonter même les interdictions. Alors la Bible nous dit d'être soumis aux autorités. Il y a une nuance importante. Autant que ce soit dans la volonté de Dieu, si c'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, la Bible elle est claire, hein, c'est la parole de Dieu qui dit cela. Et eux, revêtus du Saint-Esprit, ils vont surmonter les interdictions, les mêmes hommes. Ils vont surmonter les menaces, ils vont surmonter les intimidations. Et le Saint-Esprit faisait d'eux des témoins efficaces pour la cause de l'Évangile. Ces hommes qui ont eu peur pour leur vie. Ils sont tous morts en martyr. Tous. C'est l'histoire qui nous le dit. Mais ce qui a fait qu'ils ont eu ce courage, ils ne se sont pas laissés intimider, c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors quelle est l'utilité du Saint-Esprit? Ici, nous en avons la démonstration. On revient au signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Le signe initial, ben, on a parfois contesté l'expression du signe initial. Dans certaines dénominations, il va y avoir quelques soucis par rapport à cela. Mais on s'aperçoit qu'avant l'ascension, Jésus avait promis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Déjà, Jésus donc, l'avait annoncé. Des fois, on s'arrête où nous-mêmes, on a cette réaction où on va couper ou découper ce qui nous intéresse. Et ce qui vient nous percuter dans un même verset, on ne va pas le prendre. Il faut prendre le verset dans tout son contexte, évidemment. Et ici, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Le Seigneur l'avait annoncé. Alors quand on dit aujourd'hui que ces choses-là n'existent pas, ne viennent pas de Dieu, moi j'ai été confronté, quelqu'un qui est venu me voir. Alors d'autant plus, ça blesse, ça fait du mal, parce que c'est un couple de jeunes qu'on avait baptisés. Ils étaient venus à l'église, on avait conduit au Seigneur, on s'en était vraiment occupé. Puis pendant le confinement, donc à la maison, et puis là, commencé à regarder des vidéos, il est tombé sur des enseignements. Donc comme il n'était pas encore affermi, donc il a attrapé comme ça une certaine doctrine, comme quoi c'était des mythes que le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Puis un jour, il a pris son courage de main, il est venu me voir, il me dit « Pasteur, je ne crois plus dans le baptême du Saint-Esprit, et voilà, tout ça, ce n'est pas vrai. » Alors que moi, je lui ai dit, je l'avais entendu, il avait été baptisé du Saint-Esprit. Je lui ai dit « Mais tu peux pas le renier, ça ?» Il me dit « Non, c'était pas ça, c'était pas du Saint-Esprit, je l'avais entendu. » Donc, vous voyez qu'à un moment donné, on peut renier même certaines choses. Et dans certaines dénominations autres, on dit que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, c'est plutôt à un moment donné quand on se convertit. Quand on se convertit, quand on donne notre vie au Seigneur, on sait que le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut finalement ranimer notre cœur, nous ramener à la vie, ça, on est d'accord, évidemment. Mais ensuite, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Et le signe initial, donc, c'est le parler en langue. On s'aperçoit qu'une fois qu'on est revêtu du Saint-Esprit, donc, il y a ce ministère du Saint-Esprit. Et ce ministère du Saint-Esprit, il est admirable. Il y a trois actions principales que le Saint-Esprit fait, opère. Première action, que fait le Saint-Esprit dans nos vies, c'est une action donc de destruction en nous. Alors, je vais expliquer au travers de ce verset, Colossiens chapitre 3 et le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, Alors, il va plus loin, il nomme ces choses-là. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolatrie. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Colosse, mais en fait, il faut faire mourir. Et l'œuvre du Saint-Esprit, on l'a remarqué, hein, quand on se donne au Seigneur, le Saint-Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit, il va se préoccuper de détruire certaines choses dans nos vies. Les arracher, les enlever. Et des fois, je vous promets, quand ça arrache, ça fait mal. Et des fois, on a des réactions où on s'attache à certaines choses, alors que le Seigneur veut les enlever, pas pour nous sanctionner de quoi que ce soit, mais au contraire, le Seigneur sait que si on garde ces choses-là dans notre cœur, ça peut nous éloigner de sa présence. Donc la première action du Saint-Esprit, c'est une action destructrice en chacun d'entre nous. La deuxième action, c'est une action créatrice. Il vient créer à chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit nous communiquera les grâces particulières qui nous sont absolument indispensables à chacun d'entre nous. Regardez ce verset qu'on en connaît bien. C'est le fameux fruit de l'Esprit décliné en 9 quartiers, ou alors comme un raisin. Donc, on le voit ici, mais c'est un même fruit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est ce qu'il produit en chacun d'entre nous. Et il crée ces choses-là. Ce qui sous-entend que si on n'est pas inondé, rempli du Saint-Esprit, ces choses-là ne peuvent pas être trouvées en chacun d'entre nous. L'amour, la joie, la paix. Ces derniers jours, là, j'ai pu parler avec mon oncle, vous vous souvenez, hein, ceux qui étaient là un mardi, je vous avais demandé de prier pour mon oncle qui passait par une opération assez délicate. Et puis, on était tous les deux. J'ai dit, je te trouve en forme. Il me dit, oui, mais le Seigneur, il agit de façon extraordinaire. Et puis, je me souviens, quand j'étais en préparation de l'opération, dans une salle, j'étais tout seul. J'avais une paix que je n'ai jamais expérimentée, 50 ans de conversion. Et à ce moment-là, une paix surnaturelle. Et Dieu ne change pas, reste le même. Et c'est ce qu'il produit en chacun d'entre nous. Donc, cette paix, la patience. Est-ce qu'il y a quelqu'un naturellement patient? Ça peut arriver. Hein. En fait, si on fait un sondage, vous allez voir que dans certains domaines, on va être patient dans un domaine, et puis moins patient dans l'autre. Mais la patience, naturellement, la patience également du retour du Seigneur, elle n'est pas naturelle en chacun d'entre nous. Souvent, nous sommes impatients. On le découvre avec certains hommes de Dieu, ça leur a coûté leur vie. Rappelez-vous de Saül. Il était impatient, il n'a pas voulu attendre. Et il s'est octroyé, en fait, une autorisation de faire des choses qui lui étaient interdites. L'issue, vous la connaissez, hein, terrible, fatale. Donc la patience, la bonté. Est-ce que vous êtes connu pour être quelqu'un de bon? Vous dispensez la bonté. Et oui, hein. Vous avez remarqué des personnes, quand elles transmettent la bonté, donc de ce fruit de l'esprit, on est comme attiré vers ces personnes-là. Je vous promets que le contraire est également vrai. Quand il n'y a pas ces choses-là, ou quand il y a de l'aigreur, on n'a pas trop envie d'aller saluer, hein, ou de dire bonjour. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que le Seigneur veut faire en chacun de notre vie. Puis la tempérance, la maîtrise de soi. Être maître de ses émotions. Maître de son caractère. C'est difficile. Hein. Un jour, quelqu'un a dit que la maîtrise de soi, c'est un peu comme piloter une Formule 1. Des voitures qui roulent à 400 km/h. Donc il y a de la puissance. Il faut la maîtriser. Et le Seigneur veut qu'on soit maître de nos émotions. Et on sait que des fois, quand on laisse aller notre caractère, c'est là où ça va, et avoir des grosses difficultés. Donc ça, c'était la deuxième action du Saint-Esprit, donc créatrice en chacun d'entre nous. Et puis la troisième, l'Esprit, donc il fait une action énergétique. Ça n'a rien à voir avec le Red Bull ou une puissance autre. Mais ici, c'est une action énergétique. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Afin, le Seigneur, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On va essayer la puissance, être puissamment fortifié. Et ça, ça crée de l'énergie à chacun d'entre nous, du dynamisme et du bouillonnement. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors, en terminant, j'aimerais simplement faire quelques recommandations concernant le Saint-Esprit importantes. Tout d'abord, il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, n'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'Esprit, verset 20, ne méprisez pas les prophéties. N'éteignez pas. Alors si le Seigneur a prévu, moi je crois que toutes les paroles de cette Bible sont inspirées de Dieu et Dieu a voulu nous les communiquer à nous. Si le Seigneur nous dit que de ne pas éteindre le Saint-Esprit, c'est qu'il y a la possibilité qu'à un moment donné, le Saint-Esprit s'éteigne. Et nous, notre responsabilité, c'est que de ne pas éteindre. Et pour ne pas éteindre un feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas 50 solutions, hein. Il faut l'alimenter, mais pas que. Il faut de temps en temps enlever les cendres pour qu'il y ait la circulation de l'air, afin que le feu soit attisé. Ça, c'est un symbole pour nous tous. Donc, n'éteignez pas l'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je le redis régulièrement le dimanche matin, on veut laisser la liberté au Saint-Esprit. Souvent, on cloisonne. Laissons le Saint-Esprit. Je vous promets que si on laisse le Saint-Esprit, il n'y aura pas de choses farfelues. Il y aura des choses tellement bonnes qui vont réjouir notre cœur. Juste, je vous dis, depuis quelque temps, le mardi soir, ben je trouve, pour ceux qui sont là, qu'il y a une action du Saint-Esprit. Je vous promets, ça fait quelques mardis, quand on rentre avec Henriette, ça réjouit notre cœur, et puis par la suite, on partage un repas. Et quand on a été au bénéfice d'une action du Saint-Esprit, on dit, Seigneur, mais c'est ça en fait. Et il n'y a rien d'extravagant. On vit des choses réelles, profondes. Ce que l'on chante, on essaye de le vivre. Et ça fait toute la différence. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc, entretenez-vous. On doit s'entretenir. Une autre recommandation, n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible d'attrister le Saint-Esprit? Bien sûr que oui. Un jour, quelqu'un me disait, mais le Saint-Esprit, c'est une puissance. J'ai dit, comment tu expliques Éphésiens, chapitre 4, verset 30? Si c'était simplement une puissance, on peut attrister une puissance? On ne peut pas attrister une puissance, c'est bien une personne. Hein. N'attristez pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est sensible. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Et des fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour se poser des questions toutes simples, mais comment je peux attrister le Saint-Esprit? Et dans la parole, il y a tout ce qu'il nous faut. Ici, on est au verset 30. Si vous remontez, vous qui avez vos livres, vos Bibles ouvertes, vous remontez au verset 25, vous allez découvrir que ce qui attriste le Saint-Esprit, le mensonge, verset 25. Ce qui attriste le Saint-Esprit, la colère. Verset 26. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est de donner accès au diable. Vous l'avez avec moi? Voilà. Ce qui attriste le Saint-Esprit, le vol. Les mauvaises paroles qui sortent de notre bouche. Verset 29. L'amertume, l'irritation, explosion de colère. Des paroles blessantes ou calomnieuses, au lieu de manifester la bonté, la compassion et le désir de pardonner, versets 31 et 32. Voilà ce que c'est qu'attrister le Saint-Esprit. Si ces choses-là sont dans nos cœurs, on doit aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, déracine ces choses, parce qu'elles peuvent proliférer et elles vont proliférer dans notre vie. Seigneur, coupez, qu'il n'y ait aucune racine dans mon cœur de ces choses-là, l'amertume, l'irritation, des fois l'explosion de colère. Ça vous est arrivé déjà, à un moment donné, on discute avec un frère, une sœur, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, hein, bon, ils ont une raison. On discute avec eux, puis à un moment donné, ça explose, explosion de colère, et on ne comprend pas pourquoi. Ça, c'est terrible, hein, et ça attriste le Saint-Esprit. Ce sont des choses tellement concrètes, le mensonge, la colère, quand on donne accès au diable, c'est pour ça qu'on doit fermer les portes de notre cœur et être vigilant. Prenons le temps de nous examiner, nous tous. En ce jour de Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Examiner, c'est regarder minutieusement. Ce n'est pas survoler les choses. C'est examiner nos cœurs. Surtout, frères et sœurs, ne devenons pas des spécialistes à examiner le frère ou la sœur. Parce que des fois, on le réduit à ça. Hein. On regarde les autres, puis si nous, on fait la même erreur, on va se trouver des circonstances atténuantes. Oui, mais moi, oui, mais... Non, non. Examinons-nous. Et des fois, quand on va s'examiner, si notre foi ne progresse pas, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de cette liste qui a attristé le Saint-Esprit. Et vous savez, avec le Seigneur, il n'y a jamais de raccourci. Le Seigneur nous ramènera toujours à l'endroit, il va nous parler, le Saint-Esprit va nous dire, là, tu n'as pas été à la hauteur. Pas pour nous condamner, parce qu'il y a toujours un moyen de revenir si on se repent. Si on demande pardon au Seigneur, le Seigneur nous pardonnera autant de fois que c'est nécessaire. Mais ce retour au Seigneur est primordial. Et souvent, les vies ne progressent pas parce qu'il y a des choses qui bougent, là, qui empêchent d'aller plus loin. Et on vit des temps de sécheresse. Il n'y a rien de plus terrible, de plus laid qu'un chrétien dit... qui puisse dire, Seigneur, tu vis en moi. Il est aussi sec qu'un os à ronger. La vie de Dieu coule à chacun d'entre nous. Fleuve d'eau vive. Et ces fleuves d'eau vive, on doit pouvoir les voir. Alléluia. Alors, je conclue avec cette question. Un jour, l'apôtre Paul, il va poser la question aussi. Hein, il va dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, on doit l'entretenir. Je l'ai répété plusieurs fois ce matin. C'est le conseil, l'exhortation du Seigneur. Et ceux qui ne le sont pas, il ne faudra pas d'appel à venir sur le devant ce matin. Mais je vous invite à rechercher le Saint-Esprit. C'est un don. Ce n'est absolument pas par nos mérites. Si c'était par nos mérites, je vous promets qu'il n'y aurait pas grand monde qui serait baptisé du Saint-Esprit. C'est un don. Et pour cela, il faut le rechercher dans la simplicité. Et le Seigneur, il nous dit, mais je vous ai déjà donné, c'est à vous maintenant à vous emparer. Et des fois, on va bloquer par certaines choses. Mais recherchons le Seigneur. Juste un dernier exemple. Un jour, une sœur me disait, Alex, je cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Puis elle bloquait, des fois, à un moment donné, elle bloquait sur la compréhension. Puis dans une discussion toute simple, c'est à la sortie d'une réunion. Je dis, mais recherche le Saint-Esprit, mais dans la simplicité. Voilà, dire, Seigneur, voilà, tu as dit que tu allais nous baptiser du Saint-Esprit. Seigneur, je désire être baptisé du Saint-Esprit. Je vous promets, hein, elle m'appelle 20 minutes après, elle me dit, Alex, je rentrais chez moi, en plein milieu, j'étais au feu rouge. Le Saint-Esprit est tombé sur moi, je parlais en langue. Depuis, je ne m'arrête plus. J'ai gloire à Dieu, alléluia. C'est aussi simple que ça, en fait. Nous, on aurait tendance, on complique tout. Alors, vous qui n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, poursuivez cela. Il y aura des mardis où il y aura des soirées où on va rechercher le baptême du Saint-Esprit. Alors la responsabilité, c'est d'être là. Hein. Et que si vous voulez rechercher, mais déjà dans un premier temps, faites cette démarche auprès du Seigneur pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et je reviens, on terminera par ce verset, Luc chapitre 3, verset 16. Luc 3, 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore pour cette matinée. Seigneur, nous sommes dans ce week-end, Seigneur mon Dieu, de Pentecôte, et nous nous sommes souvenus, Seigneur, qu'à un moment donné, tu avais fait cette promesse, Seigneur, que tu enverrais ton Saint-Esprit. Tu as été fidèle, tu nous as envoyé le Saint-Esprit, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, Seigneur, et tu nous as inondés, plongés dans ton esprit. Seigneur, il n'y a rien de plus beau qu'un homme, une femme, Seigneur, qui est rempli de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à faire encore les progrès. Seigneur mon Dieu, aide-nous à laisser la liberté au Saint-Esprit dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, nous t'en supplions, à nous préoccuper les uns des autres, à prier, Seigneur, pour les baptêmes du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, nous te demandons vraiment ta grâce. Seigneur, et nous qui avons été baptisés dans le Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions, oui, entretenir, Seigneur, cette flamme, ce feu, ce bouillonnement, ce zèle pour la gloire de ton nom. Seigneur, de ce baptême du Saint-Esprit, il y a une puissance qui en découle, Seigneur, et nous voulons vraiment la puissance qui vient d'en haut, Seigneur, et que dans les prochaines réunions qui vont venir, Seigneur, qu'il y ait des tout à coup du ciel, et tout à coup de Dieu, que soudainement tu puisses agir dans les vies et dans les cœurs. Je te bénis, Seigneur, pour toutes tes bénédictions que tu as encore en réserve pour chacun et chacune d'entre nous. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, encourage-les, Seigneur, en cette semaine. Sers-toi d'eux, Seigneur, alléluia, et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Que ton nom soit béni. Merci, notre Dieu. Amen. Alléluia.